Eh bien, bonsoir. Alors, bienvenue pour cette quatrième séance sur Richard Wagner et la philosophie. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser, ça va être une différence par rapport aux deux séances précédentes, on va s'intéresser à quelqu'un qui, lui, aimait vraiment beaucoup Wagner et qui l'a aimé toute sa vie. J'avais évoqué Nietzsche qui est passé de l'adoration à la détestation de Wagner, et puis la semaine dernière, on avait vu que Adorno était extrêmement critique à l'égard de Wagner, le personnage et de sa musique. Alors, l'auteur dont il sera question aujourd'hui, c'est Claude Lévi-Strauss. C'est pas véritablement un philosophe, c'est un anthropologue. Pour autant, il a suivi une formation de philosophe, comme c'était le cas de la plupart des sociologues et des anthropologues qui ont été formés jusqu'au milieu du XXe siècle. Et puis surtout, c'est ce qui légitime de l'intégrer parmi les philosophes, surtout sa pensée a profondément influencé toutes les sciences sociales et la philosophie dans les années, on va dire, des années 50 à 70. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est sans doute beaucoup moins central et moins cité, moins discuté que dans les années 50 à 70, mais il a vraiment eu une influence déterminante dans la manière dont les sciences sociales se pratiquent encore aujourd'hui. Et on peut dire que l'œuvre de personnalités comme Pierre Bourdieu ou Michel Foucault n'aurait pas été les mêmes si elles n'avaient pas rencontré celle de Claude Lévi-Strauss, si elles n'avaient pas été très influencées par Lévi-Strauss. Alors, comme pour les cours précédents, je vais commencer par quelques rappels biographiques pour situer son œuvre dans son contexte intellectuel et social de production. Et puis ensuite, je passerai au lien que son œuvre entretient avec celle de Wagner. Une nouvelle fois, l'idée dans ce cours, c'est aussi d'introduire à la pensée d'un auteur en prenant une porte d'entrée qui n'est pas la plus importante dans l'œuvre, mais qui permet quand même d'éclairer des aspects de l'œuvre, donc qui est le rapport à Wagner. Mais avant de passer donc à cette présentation de la biographie intellectuelle de Claude Lévi-Strauss, quelques mots aussi en introduction au regard de ce que j'ai pu dire aussi dans les séances précédentes. Nietzsche comme Adorno ont beaucoup insisté sur l'antisémitisme de Richard Wagner et de ses continuateurs de Bayreuth, et j'avais notamment la semaine dernière évoqué le fait que des personnages comme les Nibelungen sont des caricatures, peuvent être en tout cas lus comme interprétés comme des caricatures de juifs tels que le discours antisémite de la fin du 19e les décrivait. Alors, ça paraît un peu paradoxal que Claude Lévi-Strauss s'intéresse à Richard Wagner en dépit de cet antisémitisme. Alors, il s'intéresse à Wagner et même il lui voue une sorte de culte dans un ouvrage dont je parlerai tout à l'heure qui est Le cru et le cuit. Il parle du dieu Wagner et qui plus est, il le revendique comme un inspirateur majeur de sa pensée. Donc c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdote. Je pense que ça concerne aussi la réception des œuvres, qu'elles soient petites ou grandes. On a évoqué le problème de la réception des œuvres la semaine dernière avec Adorno. Et je pense qu'on peut dire, à contrario de ce que pensait Adorno, que les consommateurs d'œuvres culturelles ne sont pas naïfs et passifs lorsqu'ils réceptionnent une œuvre. Et je pense que Claude Lévi-Strauss était tout à fait à même de repérer un antisémite quand il en croisait un. Il était aussi à même de faire la part des choses, d'apprécier une œuvre qui s'accordait à ses goûts musicaux et puis de laisser de côté ou de contrôler les dimensions les plus déplaisantes. Donc Lévi-Strauss n'était pas passif devant l'œuvre d'art et il n'y a pas de raison de penser que ce soit simplement un privilège d'intellectuel et que voilà, contrairement à ce que pensait Adorno, il n'y a pas nécessairement une aliénation par l'industrie culturelle. En tout cas, c'est pas un privilège d'intellectuel. Et par ailleurs, j'y reviendrai, Lévi-Strauss était un fin musicien et il n'était pas seulement amateur de musique wagnérienne, mais il s'est intéressé aussi à des musiciens comme Rameau, Ravel ou Debussy qu'il cite fréquemment dans son œuvre. Alors, quelques éléments sur sa biographie. Tout d'abord, Lévi-Strauss est né en 1908 dans une famille de la bourgeoisie parisienne juive. Plus exactement, là aussi c'est important de situer sa socialisation dans une famille d'artistes, puisque son père était peintre, portraitiste, influencé par les impressionnistes. Et d'ailleurs, on peut remarquer que la peinture joue aussi un rôle important dans l'œuvre de Lévi-Strauss. Hein, je développerai pas, mais tous ses livres sont illustrés de peintures, de gravures, et dont il se sert aussi comme support de sa réflexion. Et lui-même, quelqu'un qui réalise beaucoup de schémas, de dessins très, très raffinés. Donc voilà, en termes de socialisation, on peut dire qu'il retire de son milieu familial un rapport esthétique au monde. C'est quelqu'un qui mène des études brillantes dans les meilleurs lycées parisiens, fait des études de droit et de lettres. Il passe en 1931, il réussit l'agrégation de philosophie. Il enseigne donc en lycée, il milite un peu à la SFIO aussi, mais il n'aura pas une activité politique très, très importante et surtout pas très durable. Donc il enseigne la philosophie, mais c'est quelque chose qui ne lui convient pas, et notamment sous l'influence de sa femme, il s'intéresse vers l'ethnologie, et on lui propose, au milieu des années 30, de participer à un programme de coopération universitaire avec le Brésil. On est en train de mettre en place, ou tout au moins de redonner un dynamisme aux universités brésiliennes. Le gouvernement brésilien se tourne vers la France pour solliciter des universitaires qui seraient prêts à travailler au Brésil. Et donc Lévi-Strauss s'engage dans ce programme de coopération. Et donc il va séjourner à Sao Paulo de 1935 à 1938 comme professeur de sociologie. Et c'est dans ce cadre qu'il va réaliser plusieurs missions ethnographiques auprès de différents groupes d'Indiens d'Amazonie. Les Kadubeo, les Broro, les Nambiquara et Tupi-Kawaib. Alors, c'est un point un peu critique dans la trajectoire de Lévi-Strauss, c'est-à-dire que faire du terrain d'ethnographe, par exemple, une tribu amazonienne pendant un temps relativement long pour apprendre la langue, se familiariser avec la vie sociale des gens qu'on étudie en les observant directement, ça c'est le passage obligé pour tout anthropologue digne de ce nom, fait un travail de terrain qui lui permet par immersion durable de maîtriser la vie sociale qu'il étudie. Alors chez Lévi-Strauss c'est un petit peu ambigu parce que des mauvaises langues ont dit qu'il avait fait quelques séjours de terrain pendant ses vacances universitaires, mais c'était pas des séjours très très durables, et l'essentiel de son œuvre, il l'a produite par la suite en tant que chercheur de bibliothèque. Alors, Lévi-Strauss était assez sensible à cette critique, et sur sa fin de carrière, il a produit un livre de avant tout de photographie pour à la fois, ce sont des très belles photographies qu'il a prises pendant ses séjours chez les Indiens, mais aussi pour prouver qu'il était un véritable ethnologue qui est passé, comme tous les anthropologues dignes de ce nom, par le séjour de terrain, et il en a recueilli des matériaux très, très importants. Et donc il avait bien dû, comme les autres, ramper dans la jungle pour rencontrer des peuples pas encore totalement contaminés par la civilisation occidentale. En 1938, il revient en France, avec en préparation une thèse sur la vie sociale des Nambiquara, mais la guerre arrive. En 1939, il est mobilisé sur le front, et puis en 1940, après l'armistice, il est révoqué de l'éducation nationale du fait des lois antisémites de Vichy. Et il parvient à prendre un bateau pour les États-Unis, où il y a un système d'accueil pour intellectuels menacés par l'occupation allemande qui est organisé. Alors là aussi, c'est pas totalement une anecdote. C'est sur ce bateau, il se retrouve en compagnie d'autres voyageurs célèbres, notamment Victor Serge, qui est un ancien révolutionnaire qui a participé à la révolution russe, et puis surtout André Breton, donc le pape du surréalisme. Et ils vont devenir amis, et notamment ils ont en commun une passion pour ce qu'on appelait à l'époque les arts primitifs, ce que maintenant, sous l'influence du président Chirac, on appelle les arts premiers. Donc des œuvres produites par des sociétés non occidentales. Si vous allez à Beaubourg, par exemple, on a reconstitué le bureau d'André Breton avec toutes ces sculptures amérindiennes, océaniennes qu'il a collectionnées. Et Lévi-Strauss avait le même goût pour ce type de forme esthétique. Alors, donc, il se retrouve en exil à New York, où il intègre la New School for Social Research, qui est une institution universitaire spécialisée dans les sciences sociales, et c'est dans ce contexte américain qu'il peut véritablement faire mûrir sa démarche intellectuelle, notamment auprès de l'anthropologue Franz Boas, et puis surtout du linguiste Roman Jakobson. Et c'est dans ce contexte donc qu'il va préparer sa thèse qui sera publiée en 1949, Les structures élémentaires de la parenté. Alors la même année, donc il revient en France, après la guerre, il devient sous-directeur du Musée de l'Homme, puis il est élu à l'École pratique des hautes études sur une chaire de religion comparée. En 1955, il publie un livre qui va le rendre célèbre, qui est Triste Tropique, qui manque le Goncourt parce que les jurys du Goncourt voudraient bien lui décerner, mais en fait, dans les règles, il faut que ce soit un roman, et c'est un essai biographique où il raconte déjà ses missions chez les Indiens. Trois ans auparavant, en 1952, il avait publié aussi un ouvrage qui va le rendre célèbre, qui est un ouvrage préparé à la demande de l'UNESCO, qui s'appelle « Race et histoire », et qui est un ouvrage, un petit livre, mais qui s'attaque aux idéologies racistes et qui prône le relativisme culturel. C'est-à-dire qu'il est absurde de prétendre hiérarchiser les civilisations et invoquer leur inégalité relève du racisme. En 1960, il est élu à la chaire d'anthropologie sociale du Collège de France, et en 1973, il est élu à l'Académie française. Alors ça surprend pas mal de monde, parce qu'il est plutôt considéré comme un progressiste, et on se demande ce qu'il va faire avec ce ramassis de vieux éditorialistes du Figaro. À partir du début des années 60, aussi, c'est quelque chose d'important sur lequel je reviendrai, il rédige quelque chose d'extrêmement important dans son œuvre, qui est la série des mythologiques, donc quatre ouvrages consacrés aux mythes des Indiens, d'abord d'Amérique du Sud et ensuite d'Amérique du Nord, donc j'y reviendrai plus largement bientôt. Et puis, en 2008... il a 100 ans et on a assisté à une célébration de Claude Lévi-Strauss qui était assez curieuse et assez surréaliste et peut-être même un peu indécente, enfin en tout cas à mes yeux, surréaliste parce que ce sont des gens qui sont imprégnés d'une pensée de l'individu, des néolibéraux qui pensent que les individus sont des acteurs rationnels qui font des calculs coûts bénéfices en permanence. Ce sont les mêmes qui sont imprégnés de cette idéologie individualiste qui ont célébré le fondateur un des principaux promoteurs de la pensée structuraliste qui, à l'inverse, relativise considérablement le rôle de l'individu en disant ce qui est important dans la vie sociale, ce sont les structures. Bon, je développerai davantage, mais une pensée qui est totalement contradictoire avec l'individualisme et l'utilitarisme des gouvernants qui l'ont célébré. Et puis indécente, parce que j'ai évoqué Race et Histoire, et ce sont les mêmes qui ont célébré l'auteur de Race et Histoire, développent par ailleurs un discours raciste et cherchent aujourd'hui, en invoquant l'inégalité des civilisations, on a eu quelques exemples récents, à se rallier le vote du Front National. Donc c'était particulièrement indécent. Alors, Lévi-Strauss, je ne sais pas s'il y a eu un lien de cause à effet, en tout cas, il est mort en 2009, et dans les derniers entretiens qu'il a donnés, il disait qu'il n'aimait pas le monde dans lequel il vivait, et c'est vrai qu'il y a une forme de pessimisme qui affleure assez fréquemment dans sa pensée, spécialement à la fin de cette série des mythologiques. Le dernier volume s'appelle « L'homme nu », et il y a un très long final dans cet ouvrage, où il évoque la perspective de la destruction des peuples qu'il a étudiés. Effectivement, ces sociétés amérindiennes du Brésil et de toute l'Amérique du Sud, hein, les sociétés précolombiennes ont été assez ravagées par l'occidentalisation. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez central dans sa pensée, qui est une forme, je reviendrai là aussi, une forme de refus de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a la nostalgie de ces sociétés précolombiennes d'avant leur acculturation par l'Occident, et il y a l'idée ce sont des sociétés qui étaient mieux quand elles étaient historiquement bloquées. Et il n'est pas certain que ces sociétés aient été aussi historiquement bloquées que l'a dit Lévi-Strauss. Et puis également, il y a un pessimisme fondé sur la perspective de la destruction de la nature, et il y a des harmoniques écologistes dans sa pensée, qui s'appuie aussi à la référence à la faune et à la flore qui fait aussi la matière des mythes. Là aussi je développerai tout bientôt. Et par exemple dans L'homme nu, il dit « Je comprends mieux qu'ayant moi aussi composé ma tétralogie, elles doivent s'achever sur un crépuscule des dieux comme l'autre, ou plus précisément que terminer un siècle plus tard et dans des temps plus cruels, elle anticipe le crépuscule des hommes après celui des dieux qui devait permettre l'avènement d'une humanité heureuse et libérée. » Alors, il y a dans cette phrase une référence directe à Wagner et au crépuscule des dieux, donc le dernier volet de la tétralogie, et cet ensemble de quatre volumes, hein, des mythologiques, c'est aussi une tétralogie. C'est-à-dire, il y a quatre parties, comme dans l'opéra de Wagner, il y a quatre parties, et c'est une référence directe. Et puis, il y a également une référence à cette fin de l'opéra de Wagner, qui voit l'effondrement du règne des dieux et l'avènement, alors ça dépend des lectures qu'on en fait, hein, mais l'avènement de l'humanité, qui vient prendre la place des dieux. Alors, bon, selon les lectures, j'avais évoqué la lecture de Nietzsche, c'est pas tout à fait aussi optimiste, mais Lévi-Strauss nous dit moi aussi j'assiste à un crépuscule, simplement le crépuscule des dieux que décrit Wagner laisse malgré tout anticiper qu'il y a quelque chose, un renouveau qui va se fonder à partir de la disparition des dieux, mais le crépuscule auquel moi j'assiste, c'est celui de certaines civilisations, et c'est la destruction de la nature. Donc une vision encore plus pessimiste, mais qui se fait en référence directe à l'œuvre de Wagner. Alors, le nom de Lévi-Strauss, il est... Maintenant que j'ai présenté sa biographie, je vais davantage entrer dans le contenu intellectuel de son œuvre. Donc le nom de Claude Lévi-Strauss, il est attaché à un courant théorique qui a profondément bouleversé le champ intellectuel des années 50 et 70, qui est le structuralisme. Et cette démarche a donné aux sciences sociales de l'époque une démarche, une méthode à même d'en faire de véritables sciences. Alors que, selon une formule consacrée, elles ont un peu plus, ces sciences sociales, un peu plus de mal que les autres sciences à se faire reconnaître comme véritablement scientifiques. Alors, le structuralisme, il a connu une grande postérité en philosophie, par exemple avec Michel Foucault, en philosophie marxiste avec Althusser, en études littéraires avec Barthes, en psychanalyse avec Lacan, qui disait que l'inconscient est structuré comme un langage. Donc, c'est une démarche qui n'est pas cantonnée à l'anthropologie, hein, mais qui a irrigué toutes les sciences sociales. Également à noter qu'il y a un contemporain de Lévi-Strauss qui a rejoint sa pensée, mais avec un point de départ différent. Alors, ce contemporain, c'est Georges Dumézil, qui est un spécialiste de mythologie comparée, et qui s'est intéressé essentiellement aux civilisations indo-européennes et aux mythes de ces civilisations, et qui a retrouvé certains aspects de la démarche de Lévi-Strauss. Ils ont été très fréquemment en dialogue, notamment juste deux mots sur Georges Dumézil, c'est quelqu'un qui a repéré à la fois dans la structure des sociétés, mais aussi dans leur imaginaire et par exemple dans leur mythologie, qu'il a appelé l'idéologie des trois fonctions. C'est-à-dire que soit dans l'idéologie, soit dans la mythologie, soit dans la réalité sociale, on a une division de la société en trois fonctions. D'une part les guerriers, d'une part les prêtres, d'autre part les travailleurs. Bon. Et c'est un historien du Moyen-Âge comme Georges Duby a retrouvé cette... Alors, Dumézil l'identifie dans la mythologie romaine, dans la mythologie indo-européenne, et Georges Dumézil le retrouve dans la structure de la société du Moyen-Âge. Et d'une certaine manière, si vous pensez à la Révolution française, c'est quoi ? C'est la noblesse, c'est-à-dire les guerriers, c'est le clergé, c'est-à-dire les prêtres, et le tiers-état, c'est tout ce qui reste, mais c'est aussi ce qui travaille. Hein ? Donc, voilà, quelque chose qui serait transversal aux sociétés indo-européennes ou issues du monde indo-européen comme le nôtre. Alors, j'en reviens à Lévi-Strauss. Son structuralisme a donné lieu à de grands débats et polémiques, notamment avec des gens comme Sartre et Merleau-Ponty, qui, eux, se rattachent à la phénoménologie, donc une philosophie du sujet et de la perception. Hein, on se place d'une certaine manière à l'intérieur de la tête des individus pour voir comment ils se représentent le monde, leur perception, etc. Chez Lévi-Strauss, on est dans une démarche opposée qui est c'est le monde extérieur qui agit sur l'individu et qui a un rôle structurant sur sa pensée. Donc l'individu, une nouvelle fois, est secondaire dans cette perspective. C'est pas lui le point de départ. C'est d'une certaine manière le point d'arrivée parce que c'est le monde social qui façonne la manière dont il envisage le monde et dont il agit. Alors, j'ai évoqué un peu les sources de la pensée de Lévi-Strauss avec le principal et véritable inspirateur du structuralisme qui est en fait un linguiste suisse qui est Ferdinand Saussure, qui est né en 1857 et qui est mort en 1913. Alors, pour qui la langue, donc c'est un linguiste, hein, ce qui l'intéresse c'est la langue, toute langue, c'est un système de signes, c'est-à-dire un ensemble de sons, ce qu'il appelle les signifiants, auxquels sont rattachées des significations, c'est-à-dire le signifié. C'est-à-dire le son table désigne cet objet, qui grince devant moi. Donc un mot, c'est l'association d'un son et d'un sens. Alors ce système, il est clos. C'est-à-dire que même si de nouveaux mots peuvent être intégrés à une langue, par exemple des mots étrangers, au moment considéré, au moment où le linguiste travaille, c'est délimité. Hein. Il y a un ensemble défini de mots qui est délimité, c'est-à-dire que tous les sons que la voix humaine peut produire ne sont pas intégrés à une langue. On sait qu'il y a des sons qui sont dans une langue mais qui ne sont pas dans une autre. Alors, c'est un système au sens que chaque mot est en rapport avec les autres mots de la même langue, et principalement un rapport d'exclusion. C'est-à-dire que chaque mot se distingue des autres parce qu'il ne consiste pas dans le même son et n'a pas... et ne réfère pas à la même signification. D'ailleurs, si je dis téléphone, je ne dis pas livre. Alors, dans certains cas, qui sont relativement rares, ce rapport peut être d'homophonie, c'est-à-dire qu'on a le même son, mais qui ne désigne pas toujours le même objet. D'ailleurs, couteau, ça peut être un instrument tranchant, ça peut être un coquillage. Bon. Ou ça peut être des rapports de synonymie, c'est-à-dire que vous avez des sons différents qui désignent le même signifié. D'ailleurs, le mot livre et le mot bouquin ou le mot ouvrage désignent globalement la même chose, hein, avec des nuances. Alors, et puis la plus petite unité d'une langue, c'est le phonème, c'est-à-dire le son signifiant. Alors, l'idée importante, c'est qu'il n'y a pas de relation directe entre le son et le sens. Hein, c'est ce que Saussure appelle l'arbitraire du signe. Mais c'est par l'exclusion mutuelle entre les différents sons et les différents sens que se crée l'exclusion mutuelle que se crée le sens. Hein, quand je dis couteau, je ne dis pas téléphone. Donc, pris à l'état isolé, un mot ne veut rien dire, mais sa signification, elle naît de ses rapports avec l'ensemble des autres mots. lui signifie telle chose, mais pas telle autre. Hein. Donc il y a une logique, de, en quelque sorte, de spécialisation, mais qui ne fait sens que parce que, par exemple, le mot couteau ne désigne pas l'idée de téléphone ou de chaise. Et il est un des rares à désigner l'idée d'instrument tranchant. Alors, ce que retient Lévi-Strauss de cette approche du langage, c'est que celui-ci se décompose en éléments plus petits. Les mots, donc il y a différentes petites unités, hein, dans la langue ce sont les mots, mais si on veut comprendre l'ensemble, il faut étudier les relations que ces différentes unités entretiennent les unes avec les autres. Ce qui fait qu'il y a système. Donc, ce qui compte, d'une certaine manière, ce ne sont pas les unités, mais les relations qu'elles entretiennent les unes avec les autres, hein, qui peuvent être des relations d'exclusion ou d'affinité. Même sens ou même son dans le cas du langage. Alors, j'ai décrit la logique structurale dans le cas de la langue, mais Lévi-Strauss va l'appliquer d'abord à un premier champ classique en anthropologie, qui est celui de la parenté. C'est-à-dire que l'individu, lui aussi, ne peut pas être compris à l'état isolé. Il a besoin d'une identité qui se définit par exclusion. C'est-à-dire, je suis Lilian Mathieu et pas un autre. Et je ne suis pas n'importe qui. Et personne n'est n'importe qui. Et on sait quand on est pris pour quelqu'un d'autre, c'est toujours vexant. Il y a l'idée, voilà, que l'individu se définit aussi par exclusion des autres, mais aussi par relation avec les autres. C'est-à-dire qu'on est fils de, frère de, père de ou mère de. C'est-à-dire les relations de parenté qui définissent l'identité de l'individu. Hein. Alors, les anthropologues, évidemment, ils savent depuis longtemps que ce qu'on appelle la famille, hein, tout ce qui relève de la parenté, c'est extrêmement variable et que le modèle du père-mère-enfant n'est pas le plus fréquent. Et surtout, si on se centre sur cette relation, c'est-à-dire la filiation, on loupe beaucoup d'autres choses qui sont importantes dans la parenté. Et par exemple, dans de nombreuses sociétés, c'est le frère de la mère, c'est-à-dire l'oncle maternel, qui a un rôle d'autorité sur l'enfant de sa sœur. Et le rôle qu'on attribue dans notre société au père, c'est-à-dire d'autorité sur l'enfant, n'est pas joué par le père biologique, par le conjoint de la mère, mais c'est l'oncle maternel qui exerce cette autorité. Et on a quelque chose qui est, donc ce sont des sociétés qu'on appelle matrilinéaires, où on appartient à la famille de sa mère et pas à la famille de son père, qui est la logique patrilinéaire. Nos sociétés sont indifférenciées, mais avec quand même un fort reste de patrilinéaire. C'est-à-dire qu'on a le nom, en général, de son père. Et c'est un peu moins fréquent d'ajouter le nom de sa mère. Dans les sociétés matrilinéaires, c'est l'inverse. On appartient à la famille, au clan de sa mère. Et on a quelque chose qui est inversé, c'est-à-dire que dans nos sociétés patrilinéaires, le père est là, Lacan disait le père sévère, le père exprime de l'affection vis-à-vis de son enfant, mais il représente aussi une forme d'autorité. Alors que l'oncle maternel, c'est quelqu'un avec qui on pourra plaisanter, qui a éventuellement un partenaire de jeu, avec qui les relations sont beaucoup plus détendues. Dans une société matrilinéaire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le père biologique, le conjoint de la mère, est quelqu'un avec qui on a ce que les anthropologues appellent des relations à plaisanterie, alors que celui qui va exercer l'autorité, c'est l'oncle maternel. Hein? Donc on a sur ce plan-là, une structure inversée, avec à chaque fois une relation d'autorité ou une relation à plaisanterie, mais inversée selon qu'on est dans un système matrilinéaire ou patrilinéaire. Hein. Je simplifie très outrageusement, c'est des choses extrêmement complexes, l'anthropologie de la parenté, mais ça vous donne une idée d'un mode de pensée relationnel. Ce qui importe, c'est le type de relation que l'individu considéré entretient avec son père ou avec son oncle maternel. Et Lévi-Strauss va appeler atome de parenté l'unité la plus simple de la parenté, c'est-à-dire celle qui comporte à la fois une relation de consanguinité, frère-sœur, une relation d'alliance, mari-femme, et une relation de filiation, parent-enfant. Et dans cet atome de parenté, selon les types de systèmes de parenté, on retrouvera deux relations positives et deux relations entre guillemets négatives, qui sont plutôt marquées par l'autorité et d'autres par la plaisanterie. Deuxième chose qui intéresse l'analyse structurelle de la parenté, c'est comment se forment les couples et les familles. Et précisément, quand il a étudié les Indiens d'Amazonie, spécialement les Bororo, Lévi-Strauss a eu accès aux formes les plus simples, ce qu'il a appelé les formes élémentaires de la parenté. C'est-à-dire qu'on a une micro-société qui est divisée en deux groupes. Éventuellement, c'est matérialisé dans le village où vous avez une séparation à l'intérieur du village et chacun habite dans, de part et d'autre, selon son groupe, de cette séparation. Et chaque groupe se voit interdire de prendre un conjoint dans son propre groupe et doit en trouver un autre dans l'autre groupe, le groupe d'en face. Et donc là, on est devant un système d'échange, c'est-à-dire on donne un membre de son groupe pour en recevoir un d'un autre groupe. Et dans la pensée de Lévi-Strauss, ce sont les hommes qui organisent cet échange et ce sont les femmes qui sont l'objet de l'échange. Alors, ça sera un aspect de sa pensée qui sera critiqué par les féministes, qui diront tout ça, ça donne quand même le beau rôle aux hommes et les femmes sont simplement considérées comme des objets, alors que si on regarde de près, elles participent aussi à l'élaboration des mariages, même si leur rôle est supposé plus discret. Alors, l'idée qu'on doit se marier avec un conjoint qui vient d'un autre groupe et qu'on ne peut pas trouver un conjoint dans son propre groupe, c'est ce qu'on appelle la prohibition de l'inceste. L'inceste, alors on peut définir plus ou moins rapproché ou plus ou moins étendu le type de partenaire interdit, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Le fait de ne pas choisir un partenaire, un conjoint dans son propre groupe. Alors, donc je l'ai dit, c'est les formes les plus élémentaires que Lévi-Strauss a, les plus simples à étudier. Mais on a des formes extrêmement complexes et Françoise Héritier, qui a pris la succession de Lévi-Strauss au Collège de France, s'est intéressée à des formes davantage complexes de parenté. Mais la conclusion de Lévi-Strauss, c'est que ce qui fait l'humanité, ce qui différencie les humains des animaux, c'est l'échange. Alors, c'est l'échange de signes, c'est-à-dire le fait d'avoir un langage articulé, de se comprendre avec des sons qui sont porteurs de signification. Et ça, les animaux ne le font pas. C'est l'échange de biens, c'est-à-dire le commerce, et c'est l'échange des femmes. Ce qui met un terme à la guerre de tous contre tous, décrite par Hobbes, par exemple, c'est le fait d'échanger, de parler, et de devenir beau-frère. Donc ce qui réévalue symboliquement la figure du beauf, injustement disqualifié par Camus. Bon. Plus sérieusement, donc l'inceste, c'est quelque chose qui est assez central dans la pensée de Claude Lévi-Strauss, en tout cas dans cette œuvre majeure qui a été en 49 les structures élémentaires de la parenté. Alors, elle est centrale dans sa pensée, mais aussi parce que les sociétés sont obsédées par cette question. Elles se consacrent à élaborer des règles de mariage, des nomenclatures de parenté extrêmement complexes. Notre société n'est pas la plus complexe de ce point de vue-là. Les sociétés australiennes, par exemple, ont des systèmes de parenté extrêmement complexes sur lesquels les anthropologues s'arrachent les cheveux. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Richard Wagner. Et Lévi-Strauss fait le rapprochement très, très aimant. C'est-à-dire qu'une bonne part des opéras de Wagner consistent en histoires de famille très compliquées. Par exemple, Lohengrin, c'est une histoire de succession. On a perdu l'héritier. C'est une histoire de mariage difficile. Vous avez Elsa qui veut se marier à condition que le mariage ne peut marcher que si elle ne demande pas le nom de son conjoint. Ni d'où il vient, ni sa famille. Et voilà, c'est pas simplement son nom, c'est aussi son origine qui est problématique. Et malheureusement, elle pose la question et donc son conjoint qui du coup est obligé de l'abandonner, c'est Lohengrin, c'est-à-dire le fils de Parsifal. Son identité se définit aussi par rapport à son père. Et d'ailleurs Nietzsche faisait remarquer que c'est un peu curieux parce que ce qui définit Parsifal, c'est la chasteté. Donc on se demande comment il a eu un fils, mais voilà, Wagner nous a jamais éclairé là-dessus. Mais c'est dans le ring, dans la tétralogie, que la question de l'inceste est la plus présente, évidemment, hein, j'en ai déjà un peu parlé. On a des règles de des logiques de parenté extrêmement complexes. On a des généalogies extrêmement emmêlées, notamment parce que Wotan est un mari volage, hein, qui couche à droite à gauche. Sigmund et Sieglinde sont ses enfants. Mais les Valkyries sont aussi ses filles. Par ailleurs, il lorgne un peu sur sa belle-sœur Freya. Et puis aussi parce que dans cet opéra, dans cette tétralogie, la question de l'inceste et de sa punition est centrale. Hein. Alors, d'une part, dans l'opéra Siegfried, dans la deuxième journée, l'union de Brunehilde et de Siegfried, elle est problématique. Parce que Brunehilde est la fille de Wotan. Et Siegfried est le petit-fils de Wotan. Donc c'est déjà un petit peu compliqué. En plus, dans l'opéra, dans ce qu'il chante, il l'identifie à sa mère. Alors, vous comprenez que le monde aille à sa perte quand on en est à ce niveau de confusion. Et puis surtout, dans l'opéra La Valkyrie, Sigmund et Sieglind, les jumeaux, commettent l'inceste. Et c'est de leur union que va naître Siegfried. Hein. Mais Fricka, donc qui est l'épouse de Wotan et qui est la gardienne des règles de la parenté, exige et obtient leur punition à ces deux jumeaux incestueux et adultérins en plus, et exige leur mort. Hein. Et donc dans l'homme nu, par exemple, Lévi-Strauss place en exergue des paroles de Fricka dans la deuxième acte dans la Valkyrie. Hein, où elle dit c'est scandaleux que a-t-on jamais vu que frères et sœurs puissent s'aimer d'un amour charnel. Alors c'est pas ce que je vais passer parce que c'est pas la partie la plus musicalement la plus intéressante, mais je vais passer quand même un petit extrait de La Valkyrie. C'est Sieglinde dans le premier acte de La Valkyrie. Alors qui raconte à Sigmund qu'elle vient de rencontrer un voyageur qui, en fait, Wotan, est venu récemment et a placé une épée dans un arbre que seul un guerrier valeureux pourra récupérer. Oh. l'interprétation, c'est Walt Rodemeyer avec l'orchestre de la radio bavaroise dirigé par Lorraine Madzel. Voilà, sur la question de la parenté, il y a, ça se rejoint, on va dire, entre Wagner et Lévi-Strauss, mais je dirais c'est un... Wagner fournit un apport plutôt ornemental à Lévi-Strauss, hein, sous forme de citation en exergue. Avec le travail de Lévi-Strauss sur les mythes, on a quelque chose de... une influence beaucoup plus profonde et concrète de Wagner sur Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss a dit un jour que Wagner était le père de l'analyse structurale des mythes. C'est, il le dit dans le cru et le puits. Et c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux. Hein. Alors, d'une part parce qu'il y a, d'une certaine manière, un travail, une similarité dans le travail de la part des deux personnages. Alors, bon, je l'ai déjà amplement évoqué, Wagner s'intéresse à la mythologie, il tire... profit de mythologie germanique et scandinave pour le ring, de légendes chrétiennes autour du Graal, etc. Donc il trouve l'inspiration dans la mythologie. Et pour cela, il se documente, c'est-à-dire que Wagner passe beaucoup de temps, il bénéficie aussi au XIXe siècle de l'intérêt sous l'influence du mouvement romantique pour la réhabilitation des légendes du Moyen-Âge, etc., notamment en Allemagne, le travail des frères Grimm. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir plusieurs versions de la même légende, du même mythe, pour... en faire sa propre version, hein, c'est-à-dire que il rajoute des éléments, il en retranche, il donne sa propre version de mythes qui préexistent, hein. Et par exemple, un peu plus tard, dans les années 20, le cinéaste Fritz Lang fera aussi une version de Siegfried, hein, un long film qui lui aussi s'inspirera des légendes germaniques pour donner sa propre version, qui n'est pas celle de Wagner. Mais il se plonge dans la matière mythologique, je dirais, pour y trouver l'inspiration et pour donner sa propre lecture, sa propre version de cette matière mythologique. Donc ça suppose passer beaucoup de temps en bibliothèque, à lire des vieux livres. Et d'une certaine manière, c'est... ce qu'a fait Lévi-Strauss pendant une grande période de son existence, c'est-à-dire que, je l'ai dit, ça a surtout été un anthropologue de bibliothèque, et il s'est plongé dans une matière mythologique qui était à la fois produite par ses collègues anthropologues qui, eux, avaient davantage été sur le terrain, appris la langue de telle ou telle ethnie amazonienne ou d'une autre zone géographique, qui font des articles, qui font des livres de mythologie, mais également pour les anthropologues, c'est une matière extrêmement riche. On a les textes des jésuites qui sont partis évangéliser les Indiens, qui ont appris la langue, qui ont recueilli des mythes, qui ont pour leurs supérieurs restés en France écrit des relations qui sont une matière extrêmement riche pour les anthropologues et aussi pour les historiens. Et dans ce matériau, il y a aussi très souvent des mythes qui ont été racontés à ces jésuites qui sont accessibles. Donc, je dirais, ils travaillent d'une certaine manière sur le même matériau, qui sont des textes de mythes, hein, retraduits. Par ailleurs, il est probable que Lévi-Strauss ne se serait pas intéressé aux mythes. Alors à la fois, c'est quelque chose que tout anthropologue est amené à rencontrer lorsqu'il travaille sur une société du type de celle auquel s'est intéressé Lévi-Strauss, mais également il avait une sensibilité parce que depuis tout jeune, il était wagnérien, il était féru de musique wagnérienne, et voilà. Sans doute qu'il s'est intéressé à ce type d'objet parce qu'il y était déjà sensibilisé. Par ailleurs, il a aborder cette matière mythologique avec, je ne sais pas trop comment dire, mais avec un rapport musical, d'une certaine manière, parce que si on prend le premier tome des mythologiques, donc le cru et le cuit, eh ben, toutes les parties s'appellent, les chapitres, les sections, sont en référence à la musique. D'une part, il y a la dédicace du livre et à la musique. Avec une partition de Chabrier et des paroles de Rostand qui l'accompagnent, qui sont mis en exergue. Et puis, les chapitres et les sections s'appellent ouverture, thème et variation, air du dénicheur d'oiseaux, récitatif, sonate des bonnes manières, symphonie brève, fugue des cinq sens, etc. Et il avance que l'analyse des mythes est comparable à celle d'une grande partition. Et en disant cela, il tire, je cite, « la conséquence logique de la découverte wagnérienne que la structure des mythes se dévoile au moyen d'une partition. » Alors, c'est à la fois une ornementation plaisante, mais pas seulement, et surtout l'idée de variation, donc empruntée à la musique, va guider la manière dont il va traiter des mythes. Parce que les différentes versions d'un même mythe sont comme une mélodie que l'on a transposée, par exemple, d'une tonalité à une autre, dont on a changé le rythme, dont on a changé l'orchestration, le timbre, etc. Et de même, des compositeurs souvent intègrent à leur création des éléments d'œuvres qui les ont précédées, par exemple ce que fait Wagner, il y a du Mendelssohn dans Parsifal, eh bien, un narrateur de mythe le fait aussi de son côté. C'est-à-dire il intègre des éléments d'un autre mythe, d'une autre légende, il l'intègre, il bricole aussi. C'est une métaphore tout à fait lévi-straussienne, celle du bricolage. Donc il y a un rapprochement explicite entre la musique et le mythe chez Lévi-Strauss, avec l'idée que, par exemple, par opposition à la peinture qui se déploie dans l'espace, le mythe et la musique se déploient dans le temps, dans un temps irréversible. Et ils sont destinés à capter l'attention d'un auditeur. Et également, le mythe, comme la musique, obéissent à des structures. Évidemment, je vais développer bientôt. Ce qui amène d'ailleurs Lévi-Strauss à développer une discussion critique avec la musique sérielle de Boulez, qu'il apprécie vraiment pas beaucoup. En fait, en disant, c'est une fausse... la musique sérielle nie qu'il y a de la structure dans la musique, mais en fait toute musique est structurée. Alors, quelques éléments pour la démarche structuraliste pour l'analyse des mythes. Alors l'enjeu, c'est pas de sélectionner la meilleure version connue d'un même mythe, mais c'est d'étudier toutes les versions précisément pour les comparer les unes avec les autres et cerner leurs différences. Alors, je vais pas résumer les quatre tomes des mythologies que ça nous entraînerait beaucoup trop loin, mais l'ouvrage, c'est aussi un de ses aspects fascinants, débute par un mythe pris, Lévi-Strauss nous dit au hasard, on n'est pas forcé de le croire, c'est un mythe Bororo qu'il a sans doute lui-même... peut-être lui-même recueilli, je me rappelle plus si c'est une version qu'il emprunte dans la littérature. C'est significativement une histoire d'inceste. C'est celle d'un jeune homme qui viole sa mère et que son père, pour le punir, le fait grimper au sommet d'un arbre pour sous prétexte de dénicher des oiseaux, mais en fait son père l'y abandonne. Les vautours lui dévorent les fesses à ce pauvre fils incestueux. Alors, bon, on est dans la mythologie, donc il répare ce handicap en se reconstruisant un postérieur avec des tubercules écrasés. Et puis il retourne dans son village où il se venge de son père en le précipitant dans un lac où donc son père est dévoré par des créatures aquatiques. Et seuls les poumons du père vont surnager en se transformant en plantes. Bon, donc... C'est typiquement ça, la mythologie amérindienne, des histoires fabuleuses où les individus se transforment, où des animaux peuvent parler, etc. Bon. Et tout le travail de Lévi-Strauss, ça va être de suivre ce fil conducteur pour envisager les différentes versions, les différentes variations autour de ce premier mythe, qui n'est pas le premier chronologiquement parlant. C'est, il le prend au hasard et de rapprochement en rapprochement, il va étudier les variations. Et il va trouver par cela d'autres mythes qui, par exemple, racontent l'origine de tel ou tel du tabac, du miel, etc. Alors, ces variations, elles ne sont pas aléatoires, elles présentent une évolution de la structure du mythe. Hein, c'est ça qui est l'enjeu de l'analyse structurale des mythes. Alors, analyse structurale, ça veut dire que, je reviens au rapprochement avec la linguistique avec lequel j'ai démarré, c'est que chaque récit, chaque mythe peut être décomposé en plus petits éléments, qui sont par exemple des épisodes. Et ce que Lévi-Strauss va appeler des mythèmes, c'est l'unité de base, qui entretiennent les uns avec les autres certains rapports. C'est-à-dire dans le mythe Bororo que je viens de résumer, on voit qu'il y a une opposition entre le haut et le bas. C'est-à-dire qu'au départ, le personnage grimpe dans un arbre, et à la fin, il y a son père qui est envoyé au fond d'un lac. Donc il y a l'opposition entre le haut et le bas, il y a l'opposition entre l'air et l'eau, par exemple. Donc voilà, il s'agit pour l'analyse structurale de repérer ce type de relation, d'opposition à l'intérieur du même récit. Et peut-être que dans une version différente, l'opposition ne sera pas entre l'air et l'eau, mais entre l'air et la terre, entre l'eau et la terre, etc. Donc ce sont des variations autour de ces couples d'opposition qui intéressent le structuralisme. Alors, le mythe se décompose en mythèmes, hein, ces épisodes, ces micro-unités, qui donc se succèdent au cours de la narration, mais également, le mythe se décompose en plans, ou ce qu'on pourrait appeler comme des thématiques. C'est-à-dire, si vous prenez un mythe célèbre, peut-être le plus célèbre grâce à Freud, le mythe d'Œdipe, il est question de parenté. C'est-à-dire que Œdipe est le fils de Laios et de Jocaste, c'est le petit-fils de Labdakos, c'est aussi le mari de Jocaste, etc. Mais ça, c'est le plan de la parenté. Vous avez le plan de la santé qui est important dans ce mythe. C'est-à-dire que Œdipe boite, comme son grand-père, il devient aveugle. Il est question de la peste sur Thèbes, donc on a aussi tout un plan sanitaire qui est important dans cette histoire-là. Et puis on a des divinités, on a par exemple le Sphinx qui apparaît, etc. Donc il s'agit de reconstruire aussi les différents plans sur lesquels un même récit peut se structurer. Alors, je vais donner un exemple d'analyse structurelle qui permet d'opérer des rapprochements. Alors, Lévi-Strauss un des premiers ouvrages où il développe cette approche pour les mythes, donc anthropologie structurale, il parle d'un mythe des Indiens des plaines d'Amérique du Nord qui est le mythe de Ashboy, garçon des cendres, et qui est très proche, dans sa structure, de la légende de Cendrillon. Simplement, c'est une structure identique, mais à bien des égards opposée. Donc il y a un point commun qui est cette histoire de cendres. Le personnage est associé aux cendres, hein, dans les deux cas, à la fois chez les Indiens et dans Cendrillon. Mais sur le plan du sexe du personnage, vous avez un garçon, vous avez une fille. Ashboy, c'est un orphelin, donc du côté de la parenté, il est défini par le manque, alors que Cendrillon, elle a une belle-mère, donc elle est dans l'excès, du côté de la parenté. Vous voyez, c'est l'opposition. Ashboy est supposé être un garçon repoussant, alors que Cendrillon, c'est une jolie fille. Donc il y en a un qui est du côté ubaude, va de la laideur, l'autre du côté du beau. Mais néanmoins, sur le plan de la solution finale, du récit, de la résolution de l'intrigue, on a une similarité, puisque Ashboy est dépouillé de son apparence hideuse grâce à un secours surnaturel, et Cendrillon est couverte de vêtements somptueux grâce aussi à un secours surnaturel qui est la bonne fée. Or, ces deux histoires viennent d'univers culturels totalement différents. D'ailleurs, on a d'un côté les Indiens d'Amérique du Nord, Et puis on a la culture occidentale. Donc, qu'est-ce qui explique que des sociétés aussi différentes proposent d'une certaine manière, alors pas exactement le même récit, pas la même histoire, mais des histoires qui sont structurellement très proches, et qui sont d'une certaine manière un double inversé sur bien des rapports. Alors une des hypothèses que formule Lévi-Strauss, c'est que ils répondent à des attentes de l'esprit humain qui sont des attentes universelles. Donc il y a chez Lévi-Strauss, la thèse d'une universalité de l'esprit humain, c'est-à-dire que tous les humains, quelle que soit leur culture, quelle que soit l'époque à laquelle ils vivent, ils ont les mêmes préoccupations fondamentales auxquelles les contes et les mythes, entre autres, sont chargés de répondre. Alors, on voit que ça fonde aussi un dialogue avec la psychanalyse, ce type d'hypothèse. Parce que la psychanalyse, elle aussi, elle s'intéresse aux mythes pour y trouver des expressions des angoisses humaines. Évidemment, le complexe d'Œdipe vient tout de suite à l'esprit. Alors, cette idée d'une unité de l'esprit humain, Lévi-Strauss la développe dans un livre de 1962 qui s'appelle « La pensée sauvage ». Alors, il ne faut pas se tromper sur le titre, parce que ça vient d'un anthropologue, ce n'est pas la pensée des sauvages, c'est-à-dire des sociétés extra-occidentales comme les sociétés précolombiennes. C'est la pensée à l'état sauvage, c'est-à-dire comment fonctionne l'esprit humain partout dans l'histoire et au travers de l'histoire. Alors, par ailleurs, la couverture du livre est une espèce de jeu de mots graphiques parce que ça représente une gravure de pensée sauvage, c'est-à-dire la fleur. Alors, c'est l'idée que, et là il est dans la continuité de Durkheim et Marcel Mauss, c'est la manière dont l'esprit humain fonctionne par catégorie. Comment l'esprit humain fonctionne par classification. Entre du côté du féminin, du masculin, du sec, de l'humide, du froid, du chaud, etc., par couple d'opposition. Des types d'animaux ou de plantes qui sont mangeables ou qui sont immangeables. C'est que dans les sociétés, on ne mange pas du chien, alors que dans d'autres sociétés, c'est quelque chose de recherché. Les conjoints possibles et les conjoints interdits, etc. Donc ça appuie le postulat d'une unité de l'esprit humain qui fonde d'une certaine manière l'humanisme de Claude Lévi-Strauss et qui suggère à l'inverse l'inhumanité de Claude Guéant. Mais ça, c'est une parenthèse. Alors, avant de donner d'autres illustrations de l'analyse des mythes version de Lévi-Strauss, faut en revenir à Richard Wagner, qu'on a un petit peu perdu de vue, et à son influence sur ce mode de pensée. La décomposition du mythe en différentes sous-unités, c'est aussi ce que fait Wagner avec le leitmotiv. C'est-à-dire que, j'ai déjà expliqué le fonctionnement de Wagner, sa méthode de composition, c'est-à-dire qu'à chaque personnage ou à chaque entité signifiante dans le récit correspond un motif musical. Et que c'est aussi les rapports entre ces différentes musiques qui font système à l'intérieur de l'œuvre wagnérienne. Avec le leitmotiv, on a un lien entre la mémoire et le futur, c'est-à-dire que l'apparition d'un motif qu'on va identifier préalablement dans la musique permet à l'auditeur d'anticiper sur ce qui va suivre. C'est-à-dire tel personnage n'est pas encore présent sur scène, mais il va apparaître bientôt. Dans l'extrait que j'ai passé, lorsque Sieglinde évoque Wotan, on a le motif de Wotan qui apparaît. Lorsque elle évoque l'épée que Wotan a laissée, il y a le motif de l'épée qui est joué par l'orchestre. Éventuellement, c'est la même idée qui est évoquée par le même leitmotiv. C'est-à-dire que au moment où, au début, dans l'Or du Rhin, Alberich renonce à l'amour pour conquérir la puissance qui va avec l'or, il y a le motif du renoncement à l'amour. Enfin, on l'a appelé, les musicologues l'ont appelé comme ça. Et lorsque Wotan se fait reprocher par son épouse Frika d'avoir vendu sa belle-sœur Freya au géant, on a le même motif qui apparaît, parce que c'est bien aussi l'idée d'un renoncement à l'amour, symbolisé par cette déesse, qui, pour une recherche de puissance, qui est au cœur du problème, hein, et du drame de vos temps. Et la reprise du thème est là aussi pour suggérer cette idée. Alors la combinaison des leitmotivs, hein, fournit sa texture à la musique, et c'est jamais le fruit du hasard, mais c'est méticuleusement pensé et organisé. C'est le produit d'une réflexion minutieuse sur le matériau musical, il faut d'abord que ça soit beau, hein, à l'audition, mais aussi sur le sens, hein, sur ce que ça livre comme information sur l'intrigue ou l'état intérieur des personnages. Donc les leitmotivs dans la musique de Wagner forment système, comme les mythèmes forment système, sont organisés en structure dans le mythe. Donc c'est chez Wagner que Lévi-Strauss a trouvé cette idée qu'un produit culturel, une musique, un opéra wagnérien ou un mythe Bororo, doit être décomposé en ces différentes sous-unités dont il faut étudier les relations les unes avec les autres pour reconstituer le système qui leur donne son sens. Alors, il fait autre chose de cette idée de wagnérienne, hein. Il en fait un instrument d'analyse des mythes, et puis surtout, Wagner n'est pas le seul à l'avoir... avoir nourri cette idée-là, hein. Ce sont les linguistes d'abord qui ont joué un rôle déterminant dans le mûrissement de la méthode structuraliste, mais néanmoins, le musicien a quand même influencé l'anthropologue. Alors, je reviens à cette démarche, hein, d'analyse structuraliste des mythes. C'est une analyse internaliste, c'est-à-dire que ce qui intéresse, c'est le récit, c'est l'histoire qui est racontée. Mais ça n'intéresse pas du tout Lévi-Strauss de savoir quand est-ce que ce mythe a été raconté, quand est-ce qu'il y a eu un jésuite ou un anthropologue pour l'enregistrer, pour le prendre en note. Ça n'intéresse pas de savoir si on raconte ce mythe le soir à la veillée ou si on le raconte dans une occasion lors d'un grand rituel. Ce qui l'intéresse, c'est le texte, c'est la matière, hein, de l'histoire. Et ça l'intéresse autant une version racontée à un jésuite au XVIIe siècle qu'une version racontée au XXe siècle à un anthropologue. Donc, ce qui n'intéresse pas Lévi-Strauss, hein, j'ai déjà suggéré cette idée-là, ce qui n'intéresse pas Lévi-Strauss, c'est l'histoire. Et notamment, ce qui l'intéresse pas, c'est de savoir comment se diffusent les mythes. Parce que je l'ai dit, il commence, hein, dans Le Cru et le Cuit par des mythes brésiliens, d'Amazonie en tout cas, et puis à la fin de sa tétralogie, à la fin des mythologiques, on est en Amérique du Nord. Hein, c'est-à-dire que par rapprochement, par variation autour des différentes histoires, on arrive en Amérique du Nord. Mais c'est pas l'idée que les mythes se seraient diffusés d'un foyer originel qui serait l'Amazonie, que ensuite, au fil du temps, ça aurait gagné l'Amérique du Nord. Ce qui l'intéresse, c'est le fait que des sociétés très très différentes, certaines de pêcheurs, certaines d'agriculteurs, d'autres de chasseurs-cueilleurs, aient les mêmes préoccupations, ou tout au moins, à partir des mêmes préoccupations fondamentales, font des variations sur la même histoire. Donc il s'oppose, et ça c'est quelque chose qu'on lui a pas mal reproché, à d'autres manières d'appréhender les mythes qui seraient une démarche diffusionniste. C'est-à-dire de se dire, il y a un foyer originel où on a inventé l'histoire, et puis de loin en loin, ça se diffuse. Hein. Alors, quelqu'un qui s'oppose à Lévi-Strauss sur ce plan-là, c'est un historien italien qui s'appelle Carlo Ginzburg, dans un bouquin passionnant qui s'appelle « Le sabbat des sorcières ». Ginzburg, au départ, il travaille sur des procès de l'Inquisition. C'est-à-dire les inquisiteurs qui torturent des gens pour leur faire avouer qu'ils sont sorciers et que, par exemple, ils enfourchent un balai à certaines périodes de l'année pour aller plus ou moins partouser avec le diable. Et à partir de ces récits du Moyen-Âge, là aussi, de manière, de sens inverse, Ginzburg arrive à des croyances pré-celtiques de chamans, et il arrive chez les chamans sibériens, qui eux aussi ont des histoires où ils partent en rêve combattre des démons pour récupérer l'âme de quelqu'un qui est malade, etc. Donc en gros, l'histoire des sorcières telle qu'on la connaît toujours aujourd'hui, c'est la diffusion d'un foyer originel qui serait les chamans, notamment en Sibérie. Bon. Là, on voit qu'on est dans une démarche d'historien qui intègre le temps, qui remonte le temps pour arriver quasiment au néolithique. Mais chez Lévi-Strauss, il y a ce refus de l'histoire, enfin en tout cas ça ne l'intéresse pas. Il s'agit de voir la cohérence interne des textes et par rapprochement, mais formel, de textes par rapport aux autres. Alors un autre point qui est intéressant avec Wagner, c'est que Lévi-Strauss donc, s'intéresse avant tout, c'est un américaniste, il s'intéresse avant tout aux sociétés indiennes, amérindiennes, d'Amérique du Sud d'abord et du Nord ensuite, mais il fait aussi des excursions, on a déjà vu avec Cendrillon, avec une matière occidentale. Et notamment, comme Wagner, il va s'intéresser au mythe du Graal, et notamment à l'histoire de Parsifal, avec des résultats assez étonnants. Alors, d'une part, il va trouver des mythes d'Indiens d'Amérique du Sud, comme d'Amérique du Nord, qui présentent des similarités extrêmement troublantes, et plus que ça, avec l'histoire de Perceval, racontée par notamment Chrétien de Troyes, du cycle du Graal en tout cas, c'est-à-dire avec chez des Indiens agriculteurs d'Amérique du Nord, on a une histoire qui débute, qui commence avec des jeunes gens qui ont traité le maïs avec insolence. C'est comme ça que le mythe nous est raconté. Ce sont des agriculteurs, donc ils dépendent des récoltes de maïs, c'est la disette parce que le maïs ne pousse plus, la famine s'installe. Et puis, jusqu'à ce qu'il y ait un jeune héros qui, dans certains récits, est élevé seul par sa grand-mère, va entreprendre une quête, au terme de laquelle il va rencontrer un vieillard qui est maître d'un chaudron inépuisable, mais ce vieillard a son échine brisée. Bon. Et déjà, à ce niveau-là de l'histoire, on peut faire le rapprochement avec l'histoire de Perceval, qui lui aussi est élevé par sa mère toute seule, qui va entreprendre une quête, qui va l'amener auprès d'un vieillard malade, le roi pêcheur. Alors, chez certains Indiens, le vieillard en question, il est aussi spécialisé dans la pêche. Bon, donc il y a aussi des rapprochements assez, assez troublants. Et Perceval aussi, il va ce vieillard malade, ce roi âgé et malade, il vit dans un château autour duquel règne un état de désolation, de la terre gaste dans les récits de la table ronde, mais qui détient un récipient fabuleux qui produit des bienfaits, qui est le Graal. Donc on retrouve le même récipient, le vieillard, le jeune homme élevé tout seul par sa mère et qui est marqué par la naïveté, et un état de disette, de mauvaise récolte tout autour. Donc c'est quand même des similarités extrêmement, extrêmement troublantes. Et ce jeune homme, il est aussi appelé à rompre un enchantement maléfique qui va rendre sa santé au vieillard et la prospérité aux récoltes. Mais ce héros, et toute l'histoire elle tourne autour de ça, il va commettre des bévues. C'est-à-dire, notamment dans l'histoire de Perceval, il doit poser une question et il ne la pose pas. Et du coup, ça bloque la réparation du problème. Non. Une des hypothèses que Lévi-Strauss écarte, c'est celle que des trappeurs occidentaux auraient fréquenté les Indiens auraient raconté les histoires du Graal, les histoires de Perceval, et puis les Indiens les auraient accommodés à leur sauce. Le problème, c'est que on retrouve trop de versions à la fois structurellement similaires, mais avec des détails adaptés à la société en question, soit de chasseurs-cueilleurs, soit d'agriculteurs, pour que ce soit ça. C'est-à-dire, il dit non, c'est pas simplement une histoire de contamination culturelle ou de diffusion culturelle, mais c'est que les Indiens ont inventé la même histoire que Perceval, que l'histoire de Perceval des chevaliers de la table ronde. Hein. Donc, à la fois l'idée de structure fondamentale, universelle dans l'esprit humain. Également, il prend comme quelque chose de troublant que dans certaines versions étendues de ce conte, ce héros naïf et qui commet des bévues, plus tard il a un fils. Il a un fils qui est associé avec un oiseau qui est le cygne. Et Lohengrin, dans l'opéra de Wagner, c'est le chevalier au cygne. Donc à la fois les Indiens et dans la légende moyenâgeuse associent le fils du personnage, du héros principal, à cet oiseau. Donc c'est pas un oiseau pris au hasard. Et l'hypothèse que fait Lévi-Strauss, c'est que ces histoires, elles essayent de résoudre le même problème fondamental qui est celui de la mauvaise communication. C'est-à-dire que ce personnage ne pose pas la bonne question au bon moment. Perceval, en tout cas, c'est son problème. Mais il y a plus, et je dirais il y a mieux. C'est-à-dire que parmi les traits principaux de l'histoire de Perceval, dont l'opéra de Wagner n'est qu'une version, donc il y a différents éléments intéressants, c'est que le héros il est défini par la chasteté, je l'ai évoqué, il ne connaît pas les femmes. Il est ignorant et il ne peut pas répondre aux questions les plus simples, notamment il ne connaît pas son nom, son propre nom. Et quand il se trouve face à un grand mystère, il ne pose pas la question évidente qu'il devrait poser. Et le résultat, c'est la famine. Et donc, la structure du mythe, selon Lévi-Strauss, elle est nette parce que sur tous ces plans, eh bien, il y a une insuffisance de la communication, soit sexuelle, soit linguistique, soit économique et écologique. Alors, l'inverse, si on prend, on a des retournements, des oppositions. Si on prend le jeu, un jeu de contraste, on a quoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Bon, je vais faire la démarche avec vous. On a un héros qui est défini par la chasteté, qui est du côté de la sexualité, il est marqué par le manque. Il faudrait un héros qui soit marqué du côté de l'excès. On a un personnage qui, du point de vue de la communication verbale, est marqué aussi par le défaut. C'est-à-dire, il ne pose pas les questions. Il faudrait qu'on ait un personnage qui réponde à des questions. Et qui répondent avec succès. Bon. Non. Ben c'est le mythe d'Oedipe. Oedipe, il est marqué du côté de l'excès, du côté de la sexualité. Il sait répondre aux questions du sphinx que personne n'est à même de répondre. Donc, le mythe d'Oedipe est un inverse structural de... Et on a aussi une histoire de peste qui est l'opposé, d'une certaine manière, de la famine. Donc on voit comment cette démarche amène à repérer quand même des homologies, et faire des rapprochements qui sont assez troublants. Alors, pour illustrer un peu ça, je vais passer un extrait de Parsifal, qui est dans le troisième acte. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça. Voilà. J'apprenne à maîtriser, là. Maximum, là. Donc c'était un extrait de la version enregistrée à Bayreuth en 1951, dirigée par Hans Knapper Butch. Donc vu qu'on s'approche de Pâques, c'était aussi l'occasion de passer Parsifal. Alors quelques mots pour conclure. Ce qu'on a reproché, et notamment Bourdieu a reproché à Lévi-Strauss, son intellectualisme, c'est-à-dire de traiter précisément la matière des mythes comme de manière déconnectée de la pratique du mythe, c'est-à-dire qui est-ce qui raconte le mythe, pour quelle occasion, à quel moment, avec quel public. Et c'est le reproche, c'est que Lévi-Strauss fait comme si le mythe était raconté pour être décodé par l'anthropologue structuraliste. De faire comme si l'Indien qui raconte son mythe autour du feu le soir, engageait avec le récit légendaire le même rapport que celui que entretient l'anthropologue structuraliste. Comme si c'était le même rapport, le même usage. Évidemment, c'est pas le cas. Hein. Et du coup, il va donner à quelque chose qui est le produit de la pratique, qui est quelque chose de relativement informel, une cohérence intellectuelle en grande partie artificielle. Hein. C'est ce que Bourdieu va aussi constater lorsqu'il va s'intéresser à la parenté en Kabylie, c'est que les règles de parenté du type de celles que Lévi-Strauss étudie, en fait, les gens ne les respectent pas, ces règles. En général, ils connaissent la règle, mais ils font le mariage suivant les règles. En général, c'est un mariage dévalué. C'est la mariée est moche, elle est pauvre, ou le marié lui-même est moche et pauvre. C'est pour sauver un peu les apparences. Mais les anthropologues de type structuraliste vous disent, mais c'est la règle de parenté, c'est celui-là qui est le premier. Non. Et les récits mythiques que racontent les Bororos à la veillée, ou les Cheyennes, ou n'importe quel, ça n'a pas cette belle cohérence avec l'opposition du haut et du bas, du sec et de l'humide, etc. Donc il faut réintroduire de la pratique sociale qui donne naissance à des choses comme la parenté ou le mythe. Néanmoins, et c'est ça qui est intéressant aussi chez Lévi-Strauss, et ça rejoint la question de l'élitisme, qu'on avait déjà trouvé chez Nietzsche et chez Adorno, il y a aussi un rapport intellectuel et d'une certaine manière élitiste de Lévi-Strauss à la musique de Wagner, certainement, mais aussi à des productions culturelles qui sont dévaluées par tout le poids du racisme occidental à l'égard des sociétés amérindiennes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi un effort, et c'est très généreux de la part de Lévi-Strauss, de donner de la légitimité, une légitimité intellectuelle extrêmement forte à des récits qui ont été considérés pendant des siècles comme des affabulations de pauvres sauvages, arriérés, qui comprennent rien à la vraie civilisation. Lorsqu'on lit les relations des jésuites, ce que j'ai fait un petit peu quand je travaillais en anthropologie, on voit tout le mépris qu'ont ces jésuites ou des autres ordres religieux d'ailleurs à l'égard de ces affabulations de sauvages. Chez Lévi-Strauss, il y a une volonté de hisser la mythologie indienne de peuples sans écriture au même niveau que des productions culturelles extrêmement valorisées comme des opéras wagnériens. Et il y a quelque chose que je trouve très très sympathique dans cette démarche. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai une nouvelle fois été beaucoup trop bavard. Merci.